Trois anecdotes de police. Première anecdote. La paire de gants. C'est une singulière histoire, monsieur, je vous assure, nous dit l'inspecteur Wild de la police de sûreté, un soir qu'en compagnie des sergents Danton et Muth, il était venu nous faire une petite visite, et une histoire qui se rattache au meurtre de cette jeune femme, Eliza Grimwood, qui a été assassinée il y a quelques années. Vous vous en souvenez peut-être. Elle demeurait sur la route de Waterloo, et on l'appelait toujours la comtesse, à cause de sa jolie tournure et de son air distingué. Quand je vis la pauvre comtesse, je la connaissais, je lui avais même parlé plusieurs fois. Étendue, morte, au milieu de sa chambre, la gorge ouverte, je vous assure que cela me fit faire un tas de réflexions qui n'étaient pas gaies. Je me rendis sur les lieux du crime dès le lendemain matin pour examiner le corps et prendre connaissance de la chambre à coucher. Je furetai partout lorsque j'aperçus sous le traversin une paire de gants. Des gants d'homme, des gants blancs très sales. À l'intérieur du gant, à l'envers, je vis deux lettres, un T et un R et une croix. Je pris ces gants et j'allai les montrer au magistrat qui instruisait l'affaire. « Wild, me dit-il, cette découverte peut être de la dernière importance, et il faut à tout prix retrouver le propriétaire de ces gants. » C'était bien mon avis, et je me mis à l'œuvre immédiatement. J'examinai les gants de très près, et il me sembla qu'ils avaient dû être nettoyés. Ils gardaient encore cette légère odeur de soufre et de résine que les gants nettoyés conservent toujours plus ou moins. Je les portai à un de mes amis, à Kennington, et comme il est de la partie, je lui demandai son avis. « Qu'en dites-vous? Ces gants ont-ils été nettoyés ?»« Certainement, ils ont été nettoyés. J'en mettrai ma main au feu. Et vous ne pouvez pas me dire qui les a nettoyés ?»« Absolument pas. Je ne suis sûr que d'une chose, c'est de ne les avoir pas nettoyés moi-même. » Seulement, il ne serait peut-être pas impossible de découvrir l'individu qui les a nettoyés. Ils ne sont pas plus de 8 ou 10 à Londres dans la partie. Il paraît qu'à cette époque-là, c'était un commerce restreint. Si vous voulez, je vous donnerai les adresses, et vous verrez. Il me donna en effet les adresses, et je courus de tous côtés 3 jours durant. J'examinai, j'interrogeai, tous étaient d'accord sur un point. Les gants avaient été nettoyés. Mais quant à découvrir l'homme, la femme ou l'enfant qui les avait nettoyés, c'était autre chose. En rentrant chez moi, fort mécontent et déconfit, le soir du 3e jour, comme je passais devant le théâtre du lycée, je résolus d'y entrer un instant pour me délasser. J'entrai au parterre à moitié pris et je m'assis à côté d'un petit jeune homme à l'air doux et modeste. Voyant que j'étais étranger, j'aime assez à ce qu'on me prenne pour un étranger. Il me donna poliment quelques explications et me nomma les acteurs. Nous liâmes conversation et lorsque nous sortîmes, le spectacle terminé, je lui offris un bock. Nous entrâmes au café, là, tout près du théâtre. Nous nous assîmes dans un petit salon au premier étage, où on nous servit une pinte d'half and half, et où on nous apporta des pipes. Nous étions là, bien paisiblement, à boire nos bocs et à fumer nos pipes tout en causant, quand le jeune homme se leva. « Vous m'excuserez, dit-il, si je ne reste pas plus longtemps, mais il faut que je sois rentré exactement. J'ai à travailler pour toute la nuit. » « À travailler toute la nuit » m'écriai-je. « Vous n'êtes pourtant pas boulanger ?»« Non !» répondit-il en riant. « Je ne suis pas boulanger. Je nettoie des gants. » Jamais de ma vie je n'ai été si étonné qu'en l'entendant prononcer ces mots. « Comment ? Vous nettoyez des gants ?»« Oui. Alors peut-être pourrez-vous me dire, et en même temps je tirai les fameux gants de ma poche, peut-être pourrez-vous me dire qui a nettoyé ces gants-là. C'est toute une histoire, et une drôle d'histoire. Un pari que j'ai fait l'autre soir à Lambeth, où nous dînions encore, un dîner par souscription. Oui, j'ai parié à un souverain que je découvrirai à qui appartenaient ces gants. J'ai déjà dépensé 7 shillings dans mes recherches, mais j'en dépenserai bien autant encore pour arriver à quelque chose. Et si vous pouviez m'aider... Tenez, vous voyez, il y a un T, un R et une croix à l'intérieur. Oui, je vois, dit-il. Mais, ma parole d'honneur, je connais ces gants-là. J'en ai vu des douzaines de tout pareils. Ce n'est pas possible, interrompis-je. Je vous assure. Et vous savez qui les a nettoyés? Je vous en réponds, c'est mon père. Où demeure votre père? Là, tout près, au coin d'Exeter Square, reprit le jeune homme. Et si vous voulez venir avec moi, il vous dira tout de suite à qui ils appartiennent. Allons-y immédiatement, repris-je. Seulement, ne dites pas à mon père que vous m'avez rencontré au théâtre. Il ne serait pas content. Bien, bien. Nous fîmes le tour de la place, et nous arrivâmes chez le brave homme, que nous trouvâmes, ainsi que ses trois filles, entourés d'immenses tabliers blancs, frottant et nettoyant des montagnes de gants. « Père, dit le jeune homme, je vous amène un monsieur qui a fait le pari de retrouver le propriétaire de cette paire de gants. Je lui ai dit que vous pourriez le lui indiquer. Je vous souhaite le bonsoir, monsieur, dis-je en entrant et en tendant au brave homme la paire de gants. Il vit la marque à l'intérieur et s'écria, « Je crois, parbleu bien, que je connais ces gants-là. J'en ai nettoyé des douzaines et des douzaines de tout pareil. Ils appartiennent à M. Trinkle, le grand tapissier de Cheapside. » « Et les tenez-vous de M. Trinkle directement ? » demandai-je, « si toutefois vous voulez bien me permettre de vous faire cette question. »« Non, répondit-il, M. Trinkle les envoie toujours à M. Phibbs, le mercier qui demeure juste en face de chez lui, et c'est M. Phibbs qui me les apporte. » C'était là un renseignement précieux. J'offris au brave homme de venir boire un coup avec moi. Il accepta, nous causâmes encore quelque temps, et nous nous séparâmes les meilleurs amis du monde. Ceci se passait dans la soirée du samedi, assez tard. Le lundi, dès le matin, je me rendis chez Phibbs, le mercier dont la boutique est située en face de celle du grand tapissier, M. Trinkle. « M. Phibbs est-il là ? C'est moi-même, monsieur. Est-ce bien vous qui avez envoyé cette paire de gants à nettoyer ?» Oui, de la part du jeune M. Trinkle, mon voisin. Il est précisément là, dans son magasin. C'est ce jeune homme en redingote verte, lui-même. Mon Dieu, M. Phibbs, je suis bien désolé, c'est une affaire très désagréable. Mais la vérité, c'est que je suis l'inspecteur Wild de la police de sûreté et que j'ai trouvé ces gants sous l'oreiller de la jeune femme qui a été assassinée l'autre jour. Route de Waterloo. Grand Dieu, mais c'est impossible. C'est un jeune homme charmant et de la meilleure conduite. Si son pauvre père entendait dire une chose pareille, il en mourrait. J'en suis au désespoir, mais il faut que je l'arrête. Grand Dieu, grand Dieu, répétait M. Phibbs. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien à faire? Rien. Au moins voulez-vous me permettre de l'appeler ici, afin que son père ne se doute pas de la chose. « Je n'y vois aucun inconvénient, à condition toutefois, monsieur Phibbs, que vous ne cherchiez pas à l'avertir. Si je surprenais quelques tentatives de ce genre, je serais obligé d'intervenir immédiatement. Pouvez-vous lui faire signe d'ici ?» Monsieur Phibbs s'avança sur le pas de sa porte, fit un signe, et le jeune homme traversa la rue immédiatement. C'était un gentil garçon, élégant, à l'air animé. « Bonjour, monsieur, dis-je. »« Bonjour, monsieur, me répondit-il. »« Voulez-vous me permettre de vous demander, monsieur, si vous avez jamais été en rapport avec une femme du nom de Grimwood ?»« Grimwood. »« Grimwood, répétait-il. »« Non. »« Vous connaissez la route de Waterloo ?»« Naturellement. »« Vous avez entendu parler de l'assassinat de cette jeune femme qui demeurait par là? Oui, j'ai lu dans les journaux le récit du crime. Voilà une paire de gants qui vous appartient et que j'ai trouvée sous son oreiller le lendemain de l'assassinat. Le pauvre garçon pâlit affreusement. Monsieur Wilde, dit-il, je vous donne ma parole d'honneur la plus sacrée que je ne suis jamais allé chez cette femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je vous crois, monsieur, mais il ne faut pas moins que je vous emmène au dépôt. La seule chose que je puisse faire pour vous, c'est de demander au magistrat que l'enquête soit conduite secrètement. On fit en effet une enquête, et on découvrit que ce jeune homme était lié avec un cousin d'Elisa Grimwood, qu'étant allé voir ce cousin 2 ou 3 jours avant le meurtre, il avait oublié ses gants sur la table. Elisa Grimwood était venue chez son cousin, comme il en sortait. À qui sont ces gants? Avait-elle dit en les ramassant. À monsieur Tringle, avait répondu le cousin. Oh, avait-elle repris, ils sont très sales et ne peuvent plus être bons à rien. Je vais les prendre, ma bonne s'en servira pour passer les poils à la mine de plomb. La bonne, sans doute, s'en était servie, puis il les avait laissés traîner sur la cheminée ou sur la commode, et sa maîtresse, en jetant un coup d'œil dans la pièce pour voir si tout était en ordre, les avait ramassés et fourrés sous l'oreiller où je les avais trouvés. Voilà l'histoire, messieurs. Deuxième anecdote. Un adroit coup de main. Une des plus belles choses qui ait jamais été faite, dit l'inspecteur Wild en appuyant sur l'adjectif, pour nous faire sentir que nous devions nous attendre à de l'ingéniosité et à de l'adresse plutôt qu'à du gros intérêt, ce fut ce geste du sergent Whitcomb. Une idée sublime! Nous étions, Whitcomb et moi, à Epsom un jour de derby. Nous guettions à la station l'arrivée de nos clients du grand monde. Chaque fois qu'il y a des courses, un concours agricole, une élection, Jenny Lind ou autre chose dans ce genre, ces messieurs nous donnent fort à faire. Nous les pinçons généralement à la gare et nous les renvoyons par le premier train. Mais ce jour-là, quelques-uns étaient parvenus à nous échapper en prenant des chevaux, en quittant Londres par Whitechapel et en arrivant à Epsom par le côté opposé, tandis que nous les attendions à la gare. Mais ceci nous éloigne du sujet qui nous intéresse. Tandis que Whitcomb et moi nous attendions à la gare, arrive un monsieur Tatt qui était autrefois de la partie et qui maintenant fait de la police en amateur. C'est un homme fort considéré. Hola, Charlie Wilt, dit-il. Que faites-vous là? Vous surveillez quelques-uns de nos anciens amis? Toujours les mêmes, monsieur Tatt. Allons, venez. Et vous aussi, Whitcomb, je veux vous offrir un verre de sherry. Nous ne pouvons pas bouger, monsieur, avant l'arrivée du prochain train, mais après cela, ce sera avec plaisir. Une fois le train arrivé, Whitcomb et moi, nous suivons monsieur Tatt à l'hôtel. Monsieur Tatt est un homme très calé qui ne regarde pas à l'argent, et ce jour-là, il portait à son devant de chemise un magnifique diamant monté en épingle et qui avait bien dû lui coûter dans les 500 à 600 francs. Nous buvions notre sherry, et nous en étions très certainement à notre troisième verre, lorsque Whitcomb s'écria tout à coup « Attention, monsieur Wilt, tenez ferme !» Et nous voyons entrer quatre de nos filous, Une minute plus tard, l'épingle de Monsieur Tatt avait disparu. Whitcomb leur coupe la retraite du côté de la porte. Je me démène de mon mieux. Monsieur Tatt se bat comme un brave. Nous voilà tous, les uns par-dessus les autres, jetés par terre. Nous relevons. C'est une scène d'une confusion indescriptible. Malgré tout, nous ne lâchons pas nos hommes. Monsieur Tatt nous ayant prêté main forte comme le meilleur d'entre nous, qui doivent être de bonnes prises aujourd'hui. Nous finissons par nous en rendre maîtres et nous les fouillons. Mais rien. Nous ne trouvons rien sur eux. Nous les mettons quand même sous clé et je vous assure que nous avions chaud. J'étais furieux de penser que là, sous notre nez, on nous avait fait cette épingle. Et je le dis à Whitcomb tandis que nous nous rafraîchissions avec M. Tatt. « Que voulez-vous dire ?» interrompit Whitcomb. « Voilà l'épingle de diamant. Et en effet, dans la pomme de sa main, elle était là, bien à l'abri et sauvée. Comment diable avez-vous fait votre compte ? J'avais remarqué celui qui l'avait prise. Et pendant que nous étions tous pêle-mêle par terre, je lui ai touché légèrement le dessus de la main. C'est un de leurs trucs que je connais. Il a cru que c'était un complice. » Et il m'a passé l'épingle. Admirable, n'est-ce pas? Admirable. Troisième anecdote, le sofa. Les jeunes gens ont plus d'une manière de mal tourner et de briser le cœur de leurs pauvres parents, dit le sergent Danton. J'en ai eu un exemple lamentable à l'hôpital Saint-Blanc. C'est une triste histoire qui a eu une triste fin. Le secrétaire, le médecin en chef et le trésorier de l'hôpital vinrent avertir l'administration que de nombreux vols se commettaient journellement au détriment des étudiants. Les étudiants ne pouvaient rien laisser dans les poches de leur pardessus, tout disparaissait. C'était fort ennuyeux pour tout le monde, très troublant, et dans l'intérêt de la maison, on désirait beaucoup que le ou les voleurs fussent découverts. On me chargea de la chose, et je me rendis à l'hôpital. « Voyons, messieurs, dis-je, lorsque l'on m'eut mis au courant de l'affaire. Si j'ai bien compris, c'est surtout dans une certaine pièce que les objets disparaissent. En effet, voulez-vous me montrer cette pièce ?» Je vis une grande pièce au rez-de-chaussée, toute nue, avec quelques bancs et quelques tables le long des murs, et une rangée de porte-manteaux tout autour pour les chapeaux et les manteaux des étudiants. « Bon, dis-je, voilà un premier point. En second lieu, messieurs, avez-vous des soupçons ?» Certes, on avait des soupçons. On accusait un des garçons de salle. Il faudrait me montrer cet individu. Je commencerai par le surveiller. On me le montra. Je le mis en surveillance, mais je retournai bientôt à l'hôpital. Ce n'était pas le garçon. Il était, malheureusement pour lui, un peu trop amateur de la bouteille, mais cela n'allait pas plus loin que cela. J'étais persuadé d'ailleurs que les vols étaient commis par un des étudiants, et je demandai, comme il n'y avait ni placard ni cabinet dans la pièce, que l'on y mît un canapé et qu'autant que possible, ce canapé fût recouvert d'une housse de perse ou de quelque chose d'analogue, afin que je puisse me coucher à plat ventre dessous, sans courir le risque d'être vu. Comme cela, j'étais sûr d'arriver à pincer le voleur. On me procura ledit canapé, et le jour suivant, vers 11 heures, avant que personne ne fût arrivé, je me disposai, en présence de ces messieurs, à me faufiler dans ma cachette. Il se trouva que c'était un de ces vieux canapés de forme antique, avec une grosse traverse de bois en dessous, qui m'aurait scié le dos en peu de temps. Encore était-il douteux que je pusse m'introduire. Nous eûmes une peine terrible à démolir tout cela, mais enfin, tout le monde s'y étant mis, on finit par me faire une place. Je m'introduisis sous le canapé, je me couchai à plat ventre, puis je tirai mon couteau et je fis dans la perce un trou commode par lequel je pouvais tout examiner. Nous étions convenus avec ces messieurs qu'aussitôt que les étudiants seraient arrivés et qu'on les saurait tous occupés dans les salles, l'un d'eux entrerait et accrocherait à l'un des porte-manteaux un grand pardessus dans la poche duquel on aurait laissé un portefeuille contenant de l'argent. J'étais dans ma cachette depuis quelque temps, lorsque les étudiants commencèrent à arriver, les uns seuls, d'autres par deux et par trois. Ils parlaient d'un tas de choses, ne se doutant pas qu'il y avait là quelqu'un qui les écoutait. Il en entra un, enfin, qui s'attarda jusqu'à demeurer seul dans la chambre. C'était un grand jeune homme, dans les 21 à 22 ans, à l'air distingué, et qui portait une moustache blonde. Il alla droit à un certain porte-manteau, prit un chapeau tout neuf qui y était accroché, l'essaya, mit à la place son propre chapeau, et alla pendre celui-là à une autre patère, juste en face de moi. Dès ce moment, j'eus la conviction que c'était lui, le voleur, et qu'il reviendrait tôt ou tard. Lorsque tous les étudiants furent montés, un de ces messieurs entra avec le pardessus. Je lui indiquai l'endroit où il devait l'accrocher afin que je l'aie bien en vue, puis il se retira, et je restai à plat ventre sous mon canapé pendant plus de 2 heures, attendant toujours. Enfin, le même jeune homme reparut. Il traversa la pièce en sifflant entre ses dents, puis s'arrêta pour écouter. Il refit un second tour, toujours en sifflant, s'arrêta encore, puis commença à faire régulièrement le tour des porte-manteaux en tâtant les poches de tous les vêtements. Quand il arriva au grand par-dessus, il sentit immédiatement le portefeuille. Il le saisit avec une telle hâte et l'ouvrit si précipitamment qu'il arracha l'élastique. Pendant qu'il était occupé à faire passer l'argent du portefeuille dans ses poches, je sortis de ma cachette et tout à coup ses yeux rencontrèrent les miens. Vous avez dû remarquer que j'ai le teint très brun. De plus, dans ce temps-là, j'étais horriblement pâle et maigre. Ajoutez à cela que sous le canapé, me trouvant dans un courant d'air, j'avais noué un mouchoir autour de ma tête. Dans cet accoutrement, j'avais vraiment un air de spectre. Aussi, le malheureux devint bleu, littéralement bleu, lorsqu'il me vit sortir de dessous le canapé, et vraiment, il y avait bien de quoi. « Je suis un agent de police de sûreté, lui dis-je. Je suis caché là depuis ce matin. Je regrette bien pour vous et vos amis que vous ayez cru devoir faire ce que vous avez fait, mais le flagrant délit est absolu. Vous avez le portefeuille à la main et l'argent sur vous. Il faut que je vous arrête. » La chose était flagrante. On ne trouva pas la moindre circonstance atténuante à invoquer. Il fut reconnu coupable et condamné. Le malheureux n'attendit pas l'exécution de la sentence. Sans qu'on sût comment il s'était procuré du poison, on le trouva mort dans la prison. Lorsque le sergent Thornton eut terminé son récit, nous lui demandâmes s'il n'avait pas trouvé le temps bien long, couché à plat ventre sous le canapé. « Mon Dieu, messieurs, si ce jeune homme n'était pas entré la première fois et que je n'eusse pas été bien sûr de mon voleur, et bien sûr qu'il reviendrait, le temps m'aurait paru plus long. Mais la chose étant si certaine, le temps a passé encore assez vite. »